Et je vous propose pour ce matin deux passages. Le premier dans le livre des Actes, au chapitre 10. Je ne vais pas tout lire parce que le passage est long, mais juste resituer le cadre. Vous savez qu'après la Pentecôte, Pierre se retrouve avec d'autres autour de Jérusalem. Là, il est à Joppé. Et puis, voilà, il vit sa vie, il va à la synagogue pour prier. Il partage la scène avec les autres. Et voilà qu'il a, à midi, comme traditionnellement, dans la maison où il est, il monte sur la terrasse et il va prier. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais c'est important de se souvenir qu'il est dans cet espace tout seul, avec Dieu, où il prie. Et pendant ce temps de prière, de recueillement, il a une vision. Et il voit sur une grande nappe descendre vers lui des tas et des tas d'animaux. Et il entend cette parole qui lui dit « Prends un couteau, tue et mange. » Il est midi, Pierre a faim. Et Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, ces animaux sont impurs. » Et il reçoit cette parole, ce que Dieu a déclaré de pur est pur. Donc il le fait, il repart. Et voilà que dans une autre ville à côté, à 12 kilomètres exactement, il y a un homme. Alors c'est là que je vais commencer la lecture du texte. Il y a un homme qui s'appelle Corneille. Et Corneille est un officier romain, donc un païen, il n'est pas juif. Mais il a suivi quand même d'assez près cette foi en Dieu qui est un peu malhabile pour lui, mais qu'il a quand même. Et il est très attentif aussi à ce peuple juif qui est à côté de lui. Et il soutient notamment des pauvres. Et alors je commence, donc voilà le contexte où on est. Je suis à partir du verset 17 du chapitre 10, si vous avez des Bibles. Donc Pierre, qui sort de sa vision, ne savait pas en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici que des hommes sont envoyés par Corneille, que Dieu avait informé qu'il y avait dans cette maison à Joppé un homme du nom de Simon, qu'on appelait aussi Pierre, et à qui il avait dit « Va chercher Pierre et dis-lui de venir dans ta maison. » Alors Corneille envoya ses serviteurs aller chercher Pierre. Ceux-ci, étant informés de la maison de Simon, se présentent à la porte et demandent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ses hommes « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent « Corneille, centenier, officier romain, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher ? Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes offrandes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi mes serviteurs et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » J'arrête là la lecture, mais la suite, c'est que Pierre lui annonce l'évangile de Jésus-Christ. Et puis la deuxième lecture que je vous propose est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, juste 2 versets. Donc Paul s'adresse à ses églises de Galatie et il leur dit ceci. Vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Bien que le Seigneur bénisse pour nous ces paroles de l'Écriture. Et je vous invite à nous lever pour chanter le cantique 161 en entier. Comment te reconnaître ? 161.
Thank you.
Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu t'es approché de nous en Jésus-Christ. Par lui, tu nous offres ta vie, cette vie abondante, en plénitude, où il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Seigneur, permets que, aujourd'hui encore, ta parole nous touche au plus profond pour que nous entrions par toi dans cette unité qui nous vient de toi. Amen. Un juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger ni d'entrer dans sa maison. Cette affirmation a de quoi choquer, sans compter que ne pas se mélanger avec des étrangers dans une société où les étrangers sont de plus en plus nombreux doit être quand même très problématique et au quotidien compliqué. Cette mentalité de Pierre, qui reflète en partie celle au moins d'un courant juif du 1er siècle, est à certains égards, vous me l'accorderez, bien proche de mentalité et de comportement aujourd'hui, même si nous n'allons pas le trouver dans ces termes. Évidemment, la définition du proche et du lointain est complètement différente pour nous. Avec les technologies de réseau, ce que nous permet par Internet, les Facebook, Twitter et autres modèles du genre, le lointain est devenu proche. Vous pouvez vous connecter avec n'importe qui, n'importe où dans le monde, dans l'immédiateté. Ça, on le dit tout le temps. Mais ça veut dire que la distance et la communication sont complètement bouleversées. Mais bizarrement, celui qui est proche, mon voisin de palier, les gens de mon quartier, celui qui est à côté, pensez au RER ou au métro, est souvent lointain parce que nous n'avons pas grand-chose en commun. Qu'est-ce qui fait que l'autre devient mon proche? Pour Pierre, les choses sont très claires. Pourquoi prône-t-il le cloisonnement jusqu'à ne pas se lier avec quelqu'un qui n'est pas juif et au point de ne pas entrer dans sa maison? L'étranger est perçu de deux manières. Il n'a pas reçu les promesses, il n'a donc pas droit à l'héritage. Il ne peut pas s'approcher comme le peuple élu du Dieu unique. En d'autres termes, il est impur. C'est donc derrière ce comportement la question de l'identité qui est en jeu. Et du coup, lu comme ça, l'étranger est perçu comme une menace. Le mélange et la mixité sont totalement impossibles parce qu'elles viendraient corrompre cette identité reçue. Aucune infiltration n'est possible. Les prosélytes, c'est-à-dire ceux qui se convertissaient au judaïsme, les craignants Dieu, ceux qui sont très proches, avaient un statut à part, proche, certes, mais pas complètement dedans. Bien sûr, vous allez me dire, dans le Premier Testament, de nombreux textes donnent une large place à l'accueil de l'étranger, à son intégration même au peuple. Pensez par exemple au livre de Ruth, la Moabite. Souvenez-vous, le peuple est l'ennemi juré d'Israël. Eh bien, cette femme devient quand même la grand-mère du roi David et se retrouve dans la généalogie de Jésus. Mais ne fait-elle pas figure d'exception? Il y a l'attitude de Pierre. Mais il faut aussi prendre en compte la démarche de Luc. Il faut prendre en compte son projet théologique dans l'ensemble du livre des Actes. Ce courant fermé représenté ici par Pierre existait à coup sûr. Était-il majoritaire? Ça, c'est moins sûr. En tout cas, il permet à Luc de montrer et d'insister sur le contraste entre cette vision et les conséquences de la foi en Jésus-Christ. Il est mort, crucifié, il est vivant. C'est donc lui, le Sauveur, celui que les prophètes ont annoncé. Là, le bouleversement est total et les conséquences immenses sont à découvrir encore et encore pour Pierre, comme pour les communautés du premier siècle, comme pour nous encore aujourd'hui. Ce que Pierre découvre ici, c'est l'accueil de Dieu aux non-juifs. Le projet de Luc, qui a écrit ce livre des Actes, est de signifier l'universalité de l'Église et plus encore l'universalité du salut offert à quiconque, homme et femme dans le monde, de tous les temps. Eh bien, ça ne va pas de soi de dire ça. Ce n'est pas évident d'élargir le champ de sa réflexion, de sa perception, de sa compréhension, de son action et de sa communication. Le mouvement n'est pas naturel. Il ne s'agit pas, comme on dit souvent, d'être large d'esprit. On n'est pas du tout sur ce registre-là avec ce texte. Il s'agit ici d'une véritable conversion au sens biblique du terme, c'est-à-dire d'un changement de direction dans sa façon de penser, de voir, d'être avec les autres et avec soi-même. Et c'est ce que Luc signifie avec cette vision qui est donnée à Pierre. Nous, on n'est pas tellement habitués à ce langage de dire « j'ai eu une vision ». À l'époque, c'était déjà plus facile. Mais c'est une manière de signifier qu'il y a quelque chose qui vient faire irruption dans le mental de Pierre et qui le décale complètement. Ce langage-là, on en trouvera bien d'autres dans les Écritures. Il reçoit ça, il le comprend. Mais vous voyez que ça le touche à un niveau de profondeur qui n'est pas simplement au niveau de son cerveau. Et c'est pourquoi ce niveau de profondeur de l'être, ce n'est pas une histoire de volonté. C'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui ouvre notre cœur et notre intelligence. Encore faut-il que nous soyons prêts à entendre et à nous laisser toucher, comme le fait Pierre. Il prie. C'est signifié en un seul verset. Et pourtant, tout est dit avec ce verset. Parce que finalement, qu'est-ce que la prière? C'est une attitude qui dit à la fois que là, Pierre a besoin de Dieu et qu'il attend quelque chose de Dieu. Il ne sait pas quoi, mais il attend quelque chose de Dieu. Comme Jésus au désert, qui ne s'en remet qu'à Dieu. Alors, le Seigneur peut agir. Il lui fait comprendre que l'impur n'est pas celui qu'il croit. L'étranger n'est plus le lointain. Les catégories jusque-là apprises et appliquées sont inefficaces et n'ont plus de sens. Et c'est précisément ce que l'apôtre Paul va expliquer à ces églises de Galatie qui, justement, n'arrive pas à vivre entre personnes d'origine juive et non juive. Il n'arrive pas à vivre, ces nouvelles relations couvrent la foi en Christ. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni personne libre, ni homme ni femme. En lisant les épîtres de Paul, on peut constater qu'il n'invite pas à la révolution sociale. Les catégories qu'il énonce, maître, esclave, homme, femme, heureusement elle dure, juif et non-juif, sont les catégories sociales de son temps. Et en apparence, il ne conteste pas ce schéma social. Souvenez-vous, il demandera à Philémon de reprendre, par exemple, son esclave Onésime. Il n'invite pas ici à lutter contre l'esclavage. De même, il va demander à l'église de Corinthe en particulier, aux femmes qui prennent un peu trop d'initiative dans l'église au point de perturber le bon déroulement du culte, de se taire. Il rappelle aux chrétiens d'origine païenne, toujours dans cette église de Corinthe qui posait beaucoup de difficultés, qu'ils n'ont pas de quoi s'enorgueillir, car qui sont-ils ? Sinon, dit-il, vous êtes de petites gens dont la grandeur ne vient que de Dieu. Et je pourrais continuer comme ça les exemples. Pourtant, il y a un pourtant. Rien ne résiste si on prend cette parole au sérieux, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Paul n'invite pas à la lutte des classes. Mais il appelle à vivre de nouvelles relations les uns avec les autres à partir de ce que Christ a fait en faveur de chacun et de chacune. Et qu'est-ce que Christ a fait ? C'est de se donner jusqu'au bout, sans rien retenir, pour signifier qui est ce Dieu dont il parle, qui est ce Dieu qui aime chacun d'entre nous. Et vous voyez bien que dans cette perspective, c'est le système qui ne tient plus. Il implose de l'intérieur. Comment encore regarder l'autre, l'esclave, la femme, l'étranger ou n'importe quelle autre catégorie quand tel ou tel est devenu en Christ mon frère, ma sœur, parce que Christ est mort pour lui, pour elle, comme pour moi. Ce nouveau regard change forcément le rapport des uns avec les autres. Mais Paul va plus loin. Il affirme une autre conséquence de l'œuvre de Christ pour nous. Il dit « Vous êtes tous un dans le Christ Jésus ». Quel est ce « un » ? Paul n'invite pas à l'uniformité, au nivellement par l'identique, à être tous les mêmes. Ça n'aurait aucun sens. Son propos ne vise pas à faire un exposé non plus sur les catégories sociales de son temps, mais bien plutôt à dire ce que signifie au cœur de notre quotidien, au cœur de ces catégories, l'œuvre de salut de Dieu en Jésus le Christ. Alors il montre à quel point cette œuvre de Christ, loin de gommer les frontières sociales, religieuses, culturelles et encore d'autres, les dépasse pour nous permettre de les vivre autrement. Il explique à ces communautés chrétiennes de Galatie qui se disputent, encore une fois, sur la place du païen par rapport aux juifs, alors qu'ils sont dans la même communauté, que la grâce concerne fondamentalement notre être profond, ce lieu où s'enracine et s'origine ce qui fait de chacun un être nouveau, là où Christ prend forme dans la vie des croyants. D'où d'ailleurs, je vous invite à lire la suite du passage que j'ai lu, d'où d'ailleurs les appels à ne pas se conformer au monde, non pas que le monde soit stigmatisé comme mauvais, pas du tout, mais il appelle à se laisser transformer par Dieu pour être conforme à Christ. Et c'est ce qui arrive à Pierre. Il comprend que sa compréhension du salut, lui qui en a été au bénéfice et qui en vit, il comprend que cette compréhension est bien trop étriquée. Désormais, le repère pour le croyant, c'est Christ. Il n'a pas à se conformer à la loi, ce que faisait Pierre, au monde, peut-être les païens, aux modes ou à tout autre courant. Son repère, c'est Christ. Et je poursuis. Si c'est de tout notre être profond dont il s'agit, c'est quoi ce niveau de profondeur le plus grand? Eh bien, je crois que c'est ce, je vais l'appeler comme ça et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce je singulier, c'est-à-dire ce qui me constitue fondamentalement en tant qu'être humain et qui est différent du je particulier qui est mon physique, mon caractère, mon histoire, etc. Et si ce je singulier est le niveau le plus grand de profondeur, eh bien vous comprenez tout de suite qu'il rejoint, ce je singulier rejoint toutes les singularités. Et c'est ça qui permet à Paul de dire que tous les niveaux intermédiaires ne comptent plus. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous n'êtes qu'un en Christ. Et c'est en allant à ce niveau de profondeur que se fait l'unité, et donc l'universalité. C'est pourquoi Paul peut dire d'une part, il le dit juste avant, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et d'autre part, « Vous êtes un en Christ. » On comprend alors que ce « un en Christ » n'est pas une accumulation de diversité saisie dans une certaine cohérence. Le « nous » constitué n'est pas une accumulation de « je » singulier, mais il s'agit bien plutôt de creuser jusqu'à l'unique. C'est là que se jouent ces nouvelles relations en Christ. Et c'est comme ça que je comprends le sens de la communauté chrétienne. Elle est ce lieu spécifique dans la société où chacun, chacune a une place au même titre que les autres. Et je me permets de faire encore un petit dérivé dans les épîtres. Si on poursuit avec l'épître aux Colossiens, il reprend exactement ce même thème, mais à partir d'un autre biais. Il le prend à partir de la plénitude en Christ. Il dit, dans ce un en Christ, il ne manque rien. Vous avez tout reçu pleinement. Ce qui signifie que tout est dedans. La plénitude est dans l'unique. C'est dire alors que dans nos démarches, l'objectif n'est pas de remplir ni d'accumuler, encore moins d'imposer. La marque, la seule marque des rapports des uns avec les autres dans l'Église est cet accueil mutuel, fondée sur cet amour reçu de Dieu. Nous avons sans doute tous encore du chemin à faire, mais c'est ce à quoi nous appelle l'Évangile. Et ce témoignage de l'Église est essentiel aujourd'hui comme hier. Au premier siècle, souvenez-vous, c'est la Pax Romana qui impose la paix, c'est-à-dire les rapports entre les peuples sont réglés par le haut. Soumission commune aux légions étrangères. Corneille en sait quelque chose, il en est un des responsables. Souvenez-vous aussi que les colonisations successives dans l'histoire se sont poursuivies avec le même type de rapport de force. Aujourd'hui, l'ordre social de beaucoup de pays se règle encore par le haut, c'est-à-dire par les forces de police. Et au niveau international, la mobilité des personnes est surveillée par des accords entre pays. Je vous donne juste un exemple rapidement, mais vous le connaissez, l'accord qui est fait entre l'Union européenne et le Maroc pour bloquer tous les immigrants subsahariens à la frontière marocaine, pour qu'ils ne passent pas en Europe. Donc ce sont des milliers d'euros qui sont donnés au Maroc juste pour maintenir ce jeu-là. On est bien, tout est contenu par la force. Mais l'Église est ce lieu où la paix est seulement possible dans la proximité. L'Évangile nous situe dans un lieu où personne ne peut se prétendre plus chez lui qu'un autre, ce qui signifie qu'une pratique de la foi ouverte à la rencontre et au métissage est évidemment possible. L'universalité de l'Église signifie qu'un lieu existe où les différences culturelles, sociales, ethniques, etc., etc., et même religieuses, se frottent les unes aux autres sur une base d'égalité, dans le sens où ce qui nous rapproche, c'est bien cet amour que nous avons reçu et que nous avons à vivre les uns pour les autres. Et c'est un vrai défi. Sans doute pouvons-nous nous poser ces questions pour conclure. Sommes-nous suffisamment ouverts et accueillants pour nous enrichir des différentes expressions de foi que nous sommes amenés à vivre? Déjà, est-ce que nous les connaissons dans nos propres paroisses? Et en cela, les églises issues de l'immigration nous interrogent sur notre capacité à nous ouvrir. Bien sûr, ça ne va pas de soi, parce que pour accueillir dans ce mouvement de réciprocité, il faut que les deux parties le veuillent. Et c'est bien là tout le sens de la conversion des cœurs et des consciences à l'Évangile. Alors revenons à Pierre et à Corneille. Pierre a converti son regard suite à l'interpellation de Dieu. Il a pu alors élargir sa pensée, sa compréhension de l'œuvre de Christ. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a pu aller chez Corneille, entrer chez lui et partager avec lui ce qu'il avait de plus essentiel. Mais Corneille aussi a entendu l'appel de Dieu. Sa confiance lui a permis de se mettre à l'écoute de Pierre et d'accueillir l'Évangile. C'est une manière de dire que nous avons besoin les uns des autres, comme Pierre pour élargir notre regard, comme Corneille pour approfondir notre foi. Le sens de la mission aujourd'hui, c'est de maintenir vive dans nos communautés cette interpellation. Nos églises sont-elles des communautés accueillantes, témoins de ce que Christ a fait en faveur de chaque homme et de chaque femme de ce monde? Notre vision est-elle suffisamment large? Nos cœurs et nos consciences convertis pour dépasser les frontières sociales, religieuses, ethniques et géographiques, pour que chacun puisse se sentir dans nos églises, chez elles, chaque personne puisse se sentir chez elle et dire librement et joyeusement « Ici, c'est chez moi ». Tout petit exemple rapide, pas être trop longue. Vous savez qu'avec le DEFAP, on a des échanges avec la Nouvelle-Calédonie. Il y a des jeunes qui viennent et puis des familles qui viennent s'installer en métropole. Et quand je suis allée en Nouvelle-Calédonie, un superbe accueil dans les églises, je ne les retrouve pas ici, alors je suis allée les voir. Ils sont essentiellement à Toulon et à Montpellier, Marseille. Je dis, et pourquoi vous n'êtes pas dans nos églises? On travaille étroitement ensemble. Ah, mais ce n'est pas nos églises. Nous, on ne se sent pas le droit d'aller là. C'est-à-dire, à partir du moment où ils n'étaient plus dans leur lieu, plus dans leur repère, ils ne s'autorisaient pas à aller dans les églises, les nôtres. Je dis, mais c'est aussi la vôtre. Nos églises, on n'en est pas propriétaire. Donc, vous savez qu'on avait fait cet échange de pasteurs kanaks, pasteurs qui venaient 3 mois en France, et puis celui de métropole partait aussi en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai demandé à ce pasteur kanak d'aller faire le tour de ces communautés et de dire, fais la passerelle pour qu'ils puissent vivre un culte en métropole, chez eux. Il l'a fait, et du coup, les communautés, là, sont... Ça pose d'autres questions maintenant, hein. Mais vous voyez qu'on croit que c'est évident, ça n'est absolument pas évident selon les cultures. Une façon aussi de dire que, et je finis là c'est sûr, l'universalité de l'Église ne peut se traduire que dans cette proximité, de proche en proche. C'est parce que nous apprenons à nous connaître, c'est parce que nous apprenons aussi à nous aimer, que quelque chose se vit. Les relations ne peuvent pas être virtuelles. Ce un en Christ nous engage, les uns à l'égard des autres, ici et partout dans le monde. Il y a des Corneilles qui nous attendent, et il y a des Pierres à découvrir. Et nous sommes tour à tour, chacun, l'un et l'autre. Amen.